Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va explorer quelques dépêches d'Africa Press. L'idée, c'est de décortiquer ensemble l'essentiel de l'actu sur le continent et un peu au-delà. On commence tout de suite avec la Gambie.
Une situation assez particulière.
Oui, bonjour. Particulière et qui touche vraiment à la confiance, en fait. La confiance publique après la dictature jamais.
Exactement.
On a donc cette fameuse liste des biens confisqués à Jamais. Bon, une somme énorme, on parle de 270 millions d'euros, mais c'est la vente de ces biens qui fait jaser, n'est-ce pas? Manque de transparence, conditions opaques.
C'est ça.
Et il y a même cette histoire de voiture vendue pour 30 euros. Symbolique, mais quand même. Qu'est-ce que ça nous dit, ça?
Bah, ça nous dit beaucoup sur la perception. Comment la simple impression de favoritisme ou juste d'un manque de sérieux, même sur un détail comme cette voiture, peut miner la confiance. Quand on ne sait pas clairement qui achète, à quel prix réel et surtout où va cet argent, parce que le montant total récolté, on ne le connaît pas, bah ça nourrit la méfiance.
Forcément.
Et on voit le résultat, hein, des gens qui manifestent, qui demandent des comptes. C'est un exemple assez classique, finalement, des difficultés de la restitution des biens mal acquis. La transparence, c'est clé.
D'accord. Allez, on change de pays, direction la Guinée. Là, c'est le secteur minier qui bouge. Le gouvernement a retiré des permis d'exploitation à deux sociétés, Guité Mining pour les diamants, Kebo Energy pour la bauxite. C'est juste une question de non-respect des règles ou il y a autre chose derrière?
Alors oui, officiellement, c'est pour manquement aux engagements. Kebo, par exemple, était en retard sur la production. Mais je pense que c'est plus large que ça.
C'est-à-dire?
C'est une affirmation assez nette de l'État qui veut reprendre la main sur ses ressources naturelles. Un secteur stratégique, évidemment. Et ils ne s'arrêtent pas là, ils mettent aussi la pression sur d'autres acteurs, comme la société émirénienne EGA, avec un ultimatum pour qu'elle respecte le code minier.
Donc une sorte de coup de force
On peut voir ça comme ça. Une sorte de nationalisme économique. Ils essayent de voir jusqu'où ils peuvent aller pour maximiser les revenus pour le pays.
Avant de faire peur aux investisseurs.
Voilà, c'est tout l'équilibre. C'est un pari, quand même. Avec potentiellement des conséquences économiques, mais aussi diplomatiques. On pense aux Émirats, par exemple.
Intéressant. Bon, on passe à quelque chose de, disons, plus léger. Enfin, en apparence. Le Cameroun qui invite l'équipe nationale russe de football pour un match amical en 2025. Une première pour la Russie en Afrique, apparemment. Simple com ou diplomatie déguisée.
C'est une initiative assez maligne dans le contexte géopolitique actuel, vous ne trouvez pas? Le sport, ça peut souvent servir de plateforme un peu neutre.
Oui, c'est vrai.
Pour le Cameroun, c'est une occasion de montrer qu'il peut organiser ce genre d'événement, de renforcer son image sur la scène sportive africaine. Et puis bon, il y a sans doute des retombées financières espérées.
Et sur le plan
C'est une façon pragmatique de maintenir des liens avec la Russie sans forcément s'engager sur des terrains plus controversés. Utiliser le sport, c'est assez classique en fait, même si, bon, ça pourrait faire réagir ailleurs, c'est sûr.
D'accord. On termine ce tour d'horizon aux États-Unis avec une polémique autour de l'arrivée de 49 Afrikaners, donc des Sud-Africains blancs, accueillis comme réfugiés. Une décision qui date de l'administration Trump et qui parlait de persécution, de spoliation de terres, allant jusqu'au mot génocide. C'est un dossier extrêmement sensible.
Ah oui, très sensible, parce qu'on a deux récits qui s'affrontent complètement. D'un côté, cette vision américaine, héritée de Trump, qui dépeint une persécution ciblée des fermiers blancs. Et de l'autre, le gouvernement sud-africain qui rejette ça en bloc. Pretoria dit « il n'y a pas de preuve de persécution systématique basée sur la race. La criminalité, malheureusement, elle touche tout le monde. » Et il voit ça comme de l'ingérence.
Donc le nœud du problème, c'est de savoir si on parle de persécution au sens légal ou de difficultés plus générales.
Exactement. C'est toute la question. Est-ce qu'on est face à une persécution qui justifie le statut de réfugié ou face à une insécurité très élevée et des problèmes économiques qui poussent des gens à partir? Certains analystes penchent plutôt pour la seconde explication.
Et la position américaine est donc très critiquée en Afrique du Sud.
Oui, fortement, et même au sein de la communauté africanaire, il y a des débats. Des groupes comme AfriForum, par exemple, disent qu'il faut rester et agir sur place. Donc on voit bien comment une décision politique étrangère peut s'appuyer sur une lecture très, très contestée de la réalité locale.
Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça, on a vu des enjeux de gouvernance, de confiance post-régime autoritaire en Gambie, une affirmation de souveraineté économique assez musclée en Guinée, la diplomatie par le sport au Cameroun. Et puis cette controverse migratoire très tendue entre les États-Unis et l'Afrique du Sud.
Oui, tout ça montre bien à quel point les dynamiques internes en Afrique sont complexes et toujours très connectées à ce qui se passe au niveau international. Et ça soulève une question peut-être pour continuer la réflexion.
Oui.
C'est de se demander dans quelle mesure des récits, des perceptions venues de l'extérieur, surtout quand elles sont instrumentalisées politiquement, comme dans l'affaire des Afrikaners, peuvent essayer d'influencer, voire de façonner la réalité politique et sociale d'un pays. Même quand ces récits sont fortement contestés sur place.
C'est une excellente question pour terminer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration condensée avec nous.